Nous avons deux intervenants au lieu d'un,
c'est un avantage
pour le prix d'un.
Pour le prix d'un. Avec Norbert Dodi de l'Université de la Réunion et
Julien Roux.
Julien Roux de l'Université de la Réunion.
Non, pas de l'Université de la Réunion. Je ne suis pas universitaire, je suis informaticien. Je viens du monde de l'informatique d'entreprise, où j'ai manipulé des chiffres pendant 3-4 ans. Et maintenant, je commence à manipuler des mots. Je ne suis pas universitaire. C'est un
très
peu
bien.
Un électron libre.
Donc, vous, généralement, on commence par manipuler des mots et après, on manipule des chiffres. Donc, on va très bien se comprendre. Donc, je vous donne la parole pour nous parler, un peu comme dans l'intervention de Thomas Sieur ce matin, de littérature francophone sur Internet.
Voilà. Alors, je vais commencer par dire que je suis un peu ici par un malentendu, puisque quand j'avais lu ce titre de littérature internet littéraire francophone, parce que la publicité avait été fort bien faite, j'avais pensé qu'il s'agissait d'un colloque sur la littérature francophone. Et donc, je pensais m'adresser à un public de spécialistes de la littérature francophone. Et je me suis aperçu, évidemment, que ça n'était pas le cas, ou du moins que le mot francophone n'était pas pris au sens étroit auquel je l'entendais en lisant l'appel d'offres. Mais ça n'a pas d'importance. Je vais simplement tenir compte du fait que vous n'êtes pas tous spécialistes de la littérature francophone, ce qui fait que je vais... présenter l'exposé un petit peu différemment de ce que j'avais prévu. Le deuxième point, c'est que j'avais pensé suivre les instructions de notre bien-aimé directeur, que je tiens à remercier d'ailleurs d'avoir bien voulu accepter ma communication, les bien-aimés directeurs, puisque j'avais cru comprendre qu'il ne fallait pas se contenter de présenter un site, mais qu'il fallait plutôt engager une réflexion. Donc, en ce qui me concerne, je vous présente pas le site dont il est question, d'autant d'ailleurs que c'est un site qui va déménager, et Julien va nous parler tout à l'heure du tout nouveau site qui sera en ligne bientôt, enfin qui est déjà en ligne mais sous forme de prototype. Et je vais parler plutôt de la préparation, de ce qu'il y a avant Internet et comment ça peut aboutir à Internet. Hein. Donc, je vais d'abord m'interroger sur cette expression littérature réunionnaise, puisque peut-être que pour beaucoup d'entre vous, ça ne dit rien. En fait, la littérature réunionnaise est une définition sur laquelle j'ai déjà réfléchi, donc je ne reviendrai pas là-dessus, mais je peux citer dès maintenant mon site internet, je vous donnerai les adresses tout à l'heure, vous pourrez aller voir dessus, et j'ai fait une communication sur cette définition de la littérature réunionnaise, donc il vous suffira d'aller l'écouter pour voir quels sont les différents problèmes que ça soulève. En tout cas, sur ce type de littérature, je l'ai appelé dans cette communication justement petite littérature, ce qui d'ailleurs était un terme qui n'a pas été facilement accepté d'emblée, puisqu'on m'avait demandé au colloque de faire une petite introduction. Bon, pourtant, je ne vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire à parler de petite littérature, puisque Cioran disait que la littérature roumaine, qui est tout de même une littérature importante, était une petite littérature, donc on peut bien utiliser ce mot sans vexer personne à propos de la littérature réunionnaise. Alors, on comprend à Cerisy où on organise chaque automne des colloques sur la littérature normande, ce que c'est que la difficulté d'identifier une littérature normande comme d'identifier une littérature réunionnaise. La littérature normande, c'est Flaubert, c'est Barbey d'Aurevilly, c'est Maupassant, c'est Madame de Sévigné et même Saint-Gore. Donc, ça n'empêche pas qu'il y a aussi des auteurs spécifiquement ou uniquement normands et même des auteurs qui écrivent en langue normande. Donc ça me permet d'évoquer des non pas des problèmes mais des questions qui se retrouvent aussi dans la littérature réunionnaise. Alors, je ne suis encore pas arrivé à la question de l'Internet, mais je m'en approche pas à pas, et je dirais que là, il y a une question qui est très importante au niveau de la littérature réunionnaise, et qui est celle de la périodisation, ce qu'on appelle en histoire littéraire la périodisation. Alors, je vais citer l'exemple d'une thèse, c'est d'ailleurs la seule thèse qui ait été écrite sur le roman réunionnais, donc on ne peut pas l'éviter, elle est d'ailleurs d'une qualité tout à fait exceptionnelle, qui est celle de Karpana Marimoutou, et qui s'appuie sur deux idées principales. Elle a été publiée, elle a été soutenue cette thèse en 1990, mais elle n'a été publiée que par morceaux sous forme d'articles, dont certains d'ailleurs ont été publiés cette année, donc l'auteur doit considérer qu'elle est toujours actuelle. Donc, d'une part, cette thèse considère que l'histoire de la Réunion est entièrement déterminée par le phénomène de la colonisation, de l'esclavagisme et des effets qui continue à s'en faire sentir aujourd'hui, donc ça c'est un élément de la thèse. Et deuxièmement, le côté sociolinguistique, en particulier les travaux de Lafont ou de Louis-Jean Calvet pour ceux qui les connaissent, qui décrivent des conflits de langue, et en particulier la diglossie. La thèse s'intitule « Le roman réunionnais en situation de diglossie ». La diglossie, alors j'ai fait un article sur la diglossie, sur le bilan critique de la diglossie en littérature, là aussi vous trouverez ça sur le site. Donc ça me permet de faire des économies de citations. Mais disons qu'en gros, c'est le problème du rapport entre une langue dite dominante, qui serait le français, et une langue dite dominée, qui serait le créole à La Réunion, mais c'est le cas aussi aux Antilles, puisque les problèmes de diglossie ont été très largement commentés, il y a des quantités d'articles sur ce sujet. Alors, au point de vue de la périodisation, l'hypothèse de Karpana Marimoutou est qu'en gros, la charnière, c'est autour des années 50. Hein, je le cite, les romans des Blancs. Alors, les Blancs, Leblon, c'est pas, il s'appelait Marius Harry Leblon, c'est comme ça, hein, c'est pas parce qu'ils étaient blancs, mais ils s'appelaient comme ça. Ils ont été des écrivains réunionnais très importants. À La Réunion, beaucoup de rues Marius-Harry Leblon, enfin quelques-unes du moins. Il n'y a surtout pas de collège ou de lycée Marius-Harry Leblon, ça il n'en est pas question. Mais ce sont des écrivains qui ont énormément produit et qui, en somme, étaient imprégnés, ils vivaient en France, d'ailleurs ils vivaient à Paris, mais qui étaient très imprégnés de l'idéologie colonialiste, donc qui étaient des fers de lance de l'idéologie colonialiste, et qui ont beaucoup écrit de textes à caractère de propagande colonialiste, ce qui leur a beaucoup nui, hein, et ce qui a fait que, malheureusement, des nouvelles et des romans tout à fait de qualité de ces auteurs ne sont plus réédités, puisque, enfin pour l'instant, hein, ça changera peut-être par la suite. Donc, je cite Marimoutou, les romans des Blancs, Leblon, proposeront une sorte d'apartheid tranquille où les différentes races de l'île développeraient leur génie propre, sans jamais se mêler, sous la houlette des Blancs, fer de lance de la civilisation française. Donc ce serait la description de la littérature réunionnaise, disons avant les années 1950, et cette littérature réunionnaise s'opposerait donc à cette époque charnière, au cours de laquelle écrit Marguerite-Hélène Mahé, qui en 1955 publie Eudora ou l'île enchantée, qui serait du point de vue de Marimoutou, bon ça peut se discuter mais bon c'est pas le lieu, qui serait le moment charnière où le roman colonial en somme se basculerait dans le passé et que l'on aurait un premier roman dans lequel le discours romanesque donnerait la parole à ceux qui en étaient exclus auparavant. Et Marie Moutou va citer toute une série d'auteurs réunionnais dont vous connaissez peut-être Axel Gauvin parce qu'il publie Au Seuil ou Sam Long que tu as cité tout à l'heure, etc. Ou encore Anne Chenet que tu as également cité. Donc cette rupture date des années 50, c'est-à-dire en gros dans le prolongement de la départementalisation de la Réunion qui elle date de 1946. Et les romans dont là je saute un petit peu, les romans dont parle Marie Moutou datent de cette période des années 50, mais surtout le grand changement, disons, aura lieu dans les années 70. Dans les années 70, ça vous dit quelque chose à sans doute beaucoup d'entre vous. Si on regarde la littérature réunionnaise, c'est en 1977. Que Anne Chenet publie Les Muselés, hein, le terme est important et significatif, et donc c'est un roman dans lequel qu'elle appelle d'ailleurs roman réunionnais, hein, et dans lequel elle explique dans sa préface ou dans son quatrième de couverture qu'elle donne la parole en somme à ceux qui n'ont pas eu jusqu'à présent, c'est-à-dire aux non-blancs, aux petits peuples réunionnais. La même année, 1977, c'est donc intéressant, Axel Gauvin publie Du créole opprimé au créole libéré, donc qui est un manifeste, en somme, on peut employer ces termes, défense de la langue réunionnaise, hein, qui justement propose que on puisse enfin écrire des romans en créole. Et il se trouve qu'en 76, donc presque en même temps, Dany Bebel Gisler, que tu dois connaître, et donc si vous voulez vous renseigner sur elle, parce qu'elle est antillaise, vous allez sur le site de Thomas, avait écrit La langue créole, force jugulée, hein, donc étude sociologique du rapport de force entre créole et français aux Antilles. Donc c'est exactement 76-77, la même année, et d'ailleurs les trois livres, vous les mettez à un côté de l'autre, et vous verrez sur chacun des livres une figure, un visage de créole, entre guillemets, parce que ça ne veut pas dire grand chose, un visage de créole, il y en a de toutes sortes, muselé d'une façon ou d'une autre. Alors il y en a un, c'est une étiquette qu'il a sur la bouche, l'autre une main, enfin donc on est bien dans la même perspective. Donc on a là toute une je vais essayer d'accélérer pour que mon camarade puisse avoir un temps de parole suffisant. Donc ce que je veux dire, c'est que on a bien là un moment de rupture, hein, qui fait que les années 70 d'ailleurs étaient des années aussi où il y avait un mouvement indépendantiste presque consistant à La Réunion. Il y avait un militantisme, en tout cas au niveau des intellectuels, qui était très fort et très agressif, hein, à l'égard des autorités en particulier, de l'État français, etc. Ce fameux Louis-Jean Calvet dont je vous parlais tout à l'heure avait fait une préface à Axel Gauvin et écrivait que l'État français pratiquait le glottocide faute de pouvoir pratiquer le génocide. Donc ça allait quand même assez loin dans les propos, à mon avis, mais enfin bon. À cette période donc se situe une charnière, et ensuite les choses vont évoluer, et je dirais que il y a une évolution de la littérature réunionnaise qui est peut-être, de mon point de vue, je me trompe peut-être, tu me diras ce que tu en penses, plus rapide du côté des écrivains et des créateurs que du côté des critiques, mais enfin c'est un point de vue personnel. Alors, ça veut dire que je m'approche de la question du site internet, je n'ai pas perdu de vue, c'est-à-dire que concevoir une étude de la littérature réunionnaise pose, vous voyez, ce problème de cette rupture entre ces deux époques. Et l'exemple qu'on peut citer, c'est le fait que ce qu'on appelle les érudits locaux, on en parle partout des érudits locaux, il y en a aussi en Normandie, il y en a dans toutes les régions de France, il y en a à La Réunion, sont un petit peu mis sur la touche, ils sont en plus souvent blancs, et il y a une académie de La Réunion par exemple, hein, comme il y a une académie malgache, comme il y a l'académie française, sur le modèle, hein, bien sûr, de l'Académie française, et cette Académie de la Réunion est totalement discréditée chez les intellectuels, alors qu'elle fonctionne, elle se réunit, il y a des gens très bien qui participent, mais elle est absolument discréditée, et aucun écrivain ou intellectuel réunionnais qui ait quelque notoriété ne fait partie de cette Académie de la Réunion. Hein. Donc, d'ailleurs, je pourrais peut-être demander à en faire partie, peut-être qu'on m'accepterait, moi, à défaut des autres. À défaut des autres, je dis bien. Donc, je vais prendre ici, pour décrire ce paysage de la Réunion d'aujourd'hui, tu me dis, là, ou encore hein. De la Réunion d'aujourd'hui, je vais prendre 2-3 exemples d'écrivains qui sont en gros autour de la cinquantaine, hein, pour vous décrire un peu leur parcours et voir le paysage. Donc Axel Gauvin, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un écrivain qui est passé par l'école normale supérieure, hein, donc c'est un parcours bien connu chez les intellectuels. Il y a eu Sartre, il y a eu Simone de Beauvoir, il y a eu Saint-Gore, il y a eu Césaire, il y a eu tant d'autres. Et rentré à La Réunion, il milite au Parti communiste réunionnais, qui était alors autonomiste, et il va combattre pour le créole, en particulier un combat qui était à l'époque assez fort, je l'ai connu dans les années 80, entre l'université et le rectorat, puisque les universitaires voulaient faire des expériences dans les classes avec le créole et que le rectorat voulait empêcher les universitaires de faire des expériences dans ces classes. Alors, je ne sais pas qui avait raison et qui avait tort, je n'en discuterai pas. Il se trouve qu'aujourd'hui, la question est très largement assouplie, puisque le créole est reconnu comme une langue régionale depuis quelques années, il y a un CAPES de créole, et par conséquent, on n'a plus besoin de se battre, de sortir des couteaux pour parler le créole. Donc Axel Gauvin a joué tout à fait le jeu de cette institutionnalisation du créole. Il a publié un ouvrage qui s'appelle « Les indispensables compromis », donc par rapport à du créole opprimé au créole libéré, vous voyez la différence du titre, et il travaille sur des problèmes dont, sur lesquels je ne vais pas vous embêter, mais qui sont assez importants, les problèmes de la graphie du créole, puisque le créole est une langue non écrite et qui s'écrit ou qui peut s'écrire ou qui pourrait s'écrire davantage. Alors, donc voilà un exemple. L'autre point qu'il faut souligner, c'est qu'Axel Gauvin publie à Paris, au Seuil, mais il publie d'ailleurs aussi chez l'Harmattan ou à La Réunion, donc il a un éventail assez large. Mais le fait de publier à Paris, tu le sais, pour tous les auteurs d'outre-mer, est souvent un atout aussi bien sur place que... enfin, tu me contrediras s'il y a lieu tout à l'heure. Je regarde tout ça, il me fait peur parce qu'il me regarde avec un air un peu sévère. Donc il me dit... Alors, Jean-François Samelong, qui a été même montré avec une très belle photo, il est très beau sur cette photo, hein, et il est né en 1949, lui n'a jamais milité dans les mouvements indépendantistes, il n'a jamais été au Parti communiste, au contraire dirais-je, et il a lancé en 78, donc vous voyez, 76-78, il a lancé le mouvement Créoli, hein, avec Monseigneur Aubry, qui est l'évêque de La Réunion. Monseigneur Aubry est un évêque, mais il est aussi un poète et un écrivain et même un intellectuel incontournable qui a lancé, donc avec Jean-François Samelong, ce mouvement Créoli qui précède de 10 ans quand même la fameuse créolité de Raphaël Confiant, hein, qui ne date que de 1978. Donc les Réunionnais ne sont pas toujours en retard par rapport aux autres. Mais enfin, la créolie, ce n'était pas la même chose que la créolité, je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors Samelong a lui aussi un parcours intéressant au sens où il a publié chez Segers, il a publié chez Grasset, etc. Donc il a publié aussi à Paris, il a publié chez Ibis Rouge aussi, donc il a publié chez pas mal d'éditeurs, et il a pour sa part créé une association qui s'appelle l'UDIR, l'Union pour la défense de l'identité réunionnaise, dont il est toujours président, alors qu'il l'a créé en 1978, hein. Et cette association a un rôle très important dans le paysage culturel réunionnais, et en particulier en tant qu'éditeur, puisqu'il publie énormément d'ouvrages d'auteurs réunionnais, et grâce à des subventions des collectivités locales, ils peuvent ainsi encourager la création littéraire à La Réunion. Alors, Samelong n'est pas dans l'université. bien qu'il ait fait une thèse sur le thème de la mort dans le roman réunionnais contemporain. Et je passe ensuite au troisième écrivain que je cite à titre d'exemple, qui s'appelle, donc j'ai cité tout à l'heure, Marie Moutou, qui est lui à la fois un poète et un universitaire, hein, qui ne publie pas en France, mais qui a beaucoup publié des poètes, qui est très connu à La Réunion, qui entre autres a fait pas mal de paroles du groupe Ziskakor, qui est un groupe qui d'ailleurs, dont la notoriété dépasse largement les frontières de La Réunion. Et en revanche, lui est inscrit et fait partie de l'université de La Réunion, où il a un rôle tout à fait important. Il est d'ailleurs plus jeune que les autres, mais sur le plan institutionnel, je dirais qu'il est dans le même paysage, donc il faut le mettre avec eux. Et je dirais même qu'il est le seul réunionnais au département de lettres modernes, où on est quand même 19. Hein, et donc, voilà, je ne sais pas ça, s'il faut commenter cela, ça c'est les universitaires qui sont ici, pourront le faire, mais enfin toutes les hypothèses sont possibles. Alors, sur les bases des considérations qui précèdent, comment est-ce qu'on peut imaginer de créer, voilà, je le dis enfin, un site sur la littérature réunionnaise? Donc, j'ai signalé cette coupure historique, et je dirais, donc j'accélère un petit peu ici, que cette coupure historique, elle est intéressante parce qu'elle existe d'un côté, et en même temps, elle dissimule parfois des continuités que j'ai pu observer parce que je m'intéresse aussi à la littérature coloniale. Je citerai quelques exemples, les prix littéraires, hein, les prix littéraires francophones d'aujourd'hui, je ne voudrais pas... Peut-être que j'abonde dans ton sens en ce moment, mais je ne voudrais surtout pas faire la moindre critique à l'égard de qui que ce soit. Mais les prix littéraires d'aujourd'hui, en réalité, sont une reprise de prix littéraires qui avaient été institués par les institutions coloniales et qui étaient extrêmement vivants. Et d'ailleurs, je tiens à préciser, parce que Louis-Jean Calvet, dont je parlais tout à l'heure, l'ignore totalement, apparemment, puisque pour lui, la colonisation consistait à l'éradication des langues vernaculaires. La période coloniale est une période au cours de laquelle il y avait des prix de littérature en langue vernaculaire, justement, hein, qui étaient des prix tout à fait conséquents et qui étaient destinés à sauver ces langues vernaculaires ou à les faire passer à l'écrit ou à les faire passer à la littérature. Hein, donc il faut quand même rappeler ça. Donc il y a des continuités comme ça. Bon, je peux donner d'autres exemples à propos d'un écrivain comme Lacossade, qui est un poète réunionnais, qui est souvent... aujourd'hui, on a fait l'année dernière, on a fait un colloque Lacossade dans lequel on a tendance à confronter Lacossade et le comte de Lille qui est aussi un réunionnais, comme vous savez, et cette confrontation et ce jeu comme ça d'opposition avait déjà existé auparavant, puisque Barquisseau avait fait sa thèse complémentaire sur Barquisseau en 1943, et que le débat Lacossade, le comte de Lille, vous me poserez des questions s'il y a besoin par la suite, existait déjà. Donc il y aurait pour un site littéraire réunionnais deux options possibles, en gros, qui du point de vue de l'intention ne sont pas forcément compatibles. D'une part, il y aurait un travail d'inventaire et de relecture et d'archivage du texte, des textes réunionnais des origines à nos jours, si vous voulez, et qui puisse un peu sortir de... On a eu droit au sein de l'université française, et pas seulement au sein de l'université française d'ailleurs, à toute une période où il s'agissait de faire la récapitulation de l'image du noir dans la littérature française de telle date à telle date, l'image du métis dans la littérature française, etc. Il y a eu donc l'image du non-blanc dans la littérature réunionnaise de l'époque coloniale, ça existe, c'est Rosemond Nicole qui avait écrit ça. Ou alors l'analyse discursive du traitement des stéréotypes racistes dans le texte romanesque, etc. Bon, on a fait vraiment beaucoup de choses là-dessus, donc il est peut-être temps d'en sortir et d'essayer de redécouvrir un peu cette littérature qui a été soit mise de côté, soit un peu caricaturée. C'est-à-dire que le réflexe consistait à isoler d'un roman colonial ou d'un roman réunionnais de cette époque les passages particulièrement marquants du point de vue du racisme, en oubliant qu'il y avait peut-être des choses intéressantes. Alors là, c'est vrai qu'on est dans une période où peut-être le temps fait son œuvre, puisque je constate qu'on commence à rééditer des romans coloniaux en ce moment, depuis les années 2000. En gros, enfin, ça a commencé dans les années 90, mais ça s'accélère. Et à propos de littérature réunionnaise, il y a un romancier réunionnais qui s'appelle Jean Deme, D-E-S-M-E, qu'absolument personne ne connaît, ni même à La Réunion, et dont on a quand même réédité trois romans depuis 2000, ce qui est assez intéressant, parce que moi je l'avais lu, et je trouve que c'était un excellent romancier. D'ailleurs, il n'y a rien à dire sur la plupart de ces romans de particulier, pas plus que pour un roman de Pierre Benoît ou autre. Alors, d'un autre côté, un site sur la littérature réunionnaise pourrait être un site dont on attendrait un travail de promotion de la littérature réunionnaise, de diffusion, hein, de mise en valeur, dont les auteurs sont d'ailleurs avides et intéressés, et c'est là tout à fait l'œuvre militante de Thomas Speer qui nous a bien dit ce matin combien la littérature donc des îles, puisque c'est ce qui le concerne, a besoin d'être connue, et donc de ce point de vue Internet est utile. Mais vous voyez bien que les buts ne sont pas à ce moment-là exactement les mêmes, hein, et donc il y a là un problème d'équilibrage à trouver. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va dans une direction ou dans l'autre? Par ailleurs, il y a, et je vais bientôt m'arrêter pour laisser la parole à quelqu'un qui va dire enfin des choses intéressantes. Donc il y a un problème aussi de délimitation qui n'est pas simple. Puisque la Réunion, c'est quelque chose dont qu'on ne sait pas toujours trop comment situer, hein. Alors il y a les Mascareignes déjà, puisque la Réunion fait partie des Mascareignes, hein. Les Mascareignes, c'est la Réunion, la Maurice et Rodrigue, c'est les îles sœurs, on disait les îles sœurs du temps de Marius Henri de Blond, et puis c'était ça a été français jusqu'en 1815, les deux îles étaient françaises, il y avait même un seul gouverneur pour les deux îles. Il y a donc un ensemble qui est celui des Mascareignes. Il y a l'ensemble de l'océan Indien qui est tout à fait important. L'océan Indien, d'ailleurs, c'est un mot un petit peu impropre, parce que l'océan Indien, c'est grand. À La Réunion, on dit l'océan Indien. En fait, on parle, si on veut parler en termes de vedette rameau, c'est littérature des îles du sud-ouest de l'océan Indien, hein, qu'il faudrait préciser. On constate que de nombreuses revues ou anthologies ou numéros spéciaux ou colloques sont organisés autour de la littérature de l'océan Indien. C'est un découpage géographique, hein. Par exemple, notre librairie va faire un numéro sur la littérature de l'océan Indien, et dans une bibliographie à laquelle je participe d'ailleurs, qui est en cours, sur la littérature francophone, il y a un découpage Amérique, Afrique, océan Indien, etc. Donc l'océan Indien est un ensemble pertinent. Il y a même eu un auteur, Camille de Roville, qui en 1960 avait écrit un ouvrage sur ce qu'il appelait l'indian-océanisme, hein, comme s'il y avait une identité, enfin comme si, considérant qu'il y avait une identité indian-océanique. Hein. Alors, en revanche, on utilise peu dans le domaine de la critique littéraire ou comme ensemble la littérature domienne. C'est pas un domaine pertinent ou très rarement. Il y a quand même des exemples que je pourrais donner. Il y a une étudiante de chez nous qui a fait un mémoire de DEA sur la créolité en comparaison avec la créolie, mais l'ensemble domien, alors que ça pourrait être intéressant de faire un travail sur l'ensemble domien, c'est donc département d'outre-mer, hein, et étant donné que il y a des points communs entre les différents départements d'outre-mer, que j'illustrerai éventuellement tout à l'heure si vous voulez. Et puis, bien sûr, la littérature réunionnaise fait partie de des littératures créolophones en général, et de donc là elle s'inscrit dans un ensemble qui va de la Louisiane à la Guyane, aux Antilles, en passant par Maurice, les Seychelles, etc. et elle s'inscrit également dans la littérature francophone, comme elle s'inscrit dans, je trouve que cette idée est tout à fait géniale qu'a eu Thomas Speer de constituer un ensemble des Dillermil à propos de la littérature francophone. C'est évidemment, elle s'inscrit également dans cet ensemble. Vous avez vu d'ailleurs qu'elle est, elle figure en bonne place dans son site. Je dirais qu'il y a des interrogations. Est-ce que un site internet sur la littérature réunionnaise est pertinent, ou bien est-ce que il faudrait l'élargir? La bibliothèque universitaire de la Réunion, par exemple, a une section océan Indien. Hein, donc il n'y a pas une bibliothèque réunionnaise, il y a une bibliothèque départementale comme partout, mais il y a une section océan Indien qui fonctionne très bien et qui est d'ailleurs, je le signale à ceux d'entre vous qui voudraient s'intéresser à la littérature de l'océan Indien, très certainement la bibliothèque la mieux fournie sur toute la littérature de l'océan Indien qui existe, hein, parce qu'ils se mettent à jour et ils ont récupéré des archives, enfin ils ont fait vraiment un travail remarquable. Alors, les différentes questions, je vais te laisser la parole, c'est lorsque j'ai eu l'occasion d'évoquer ce site et de le présenter, ce que je ne fais pas aujourd'hui, l'adresse est réunionnaise.org. Ouais. Hein, c'est ça, mais sans accent bien sûr, hein. Donc www.littérature-réunionnaise.org, hein. Donc j'ai eu l'occasion de présenter ce site et il y a eu des questions qui ont été soulevées parce que je l'ai fait dans différents cadres. Par exemple, une des questions qui est soulevée, parce qu'on parle beaucoup en France, dans les universités, de la numérisation des bibliothèques, des moyens d'information, etc., c'est par exemple, et la question se pose toujours, est-ce qu'un tel site devrait être rattaché à un centre de recherche ou bien au centre de documentation, hein, c'est une question. Bon, c'est tout de suite résolu, puisque la bibliothèque universitaire de la Réunion est déjà submergée de travail comme toutes les bibliothèques, donc je pense qu'elle est résolue par la pratique, mais enfin c'est quand même une question qui se soulève. D'autre part, il y a le problème de l'initiative. J'avais fait un exposé sur ce site devant un professeur de l'université de Lyon 2 qui est chargé d'un projet que tu connais de numérisation des thèses à l'échelon national. Hein. Lui a le projet que je ne sais pas à partir de quand ça va se mettre en route, mais toutes les thèses.
Hein, c'est commencé.
C'est commencé. Donc tous les étudiants qui soutiennent une thèse devront remettre un exemplaire électronique qui sera accessible sur Internet pour tout le monde. Et petit à petit, l'idée, ce serait d'archiver les anciennes thèses. Et ce type de travail, donc moi sur le site, j'ai mis des thèses, mais j'ai mis aussi des mémoires de maîtrise ou de DEA, là, donc ça ne sera pas mis sur Internet de toute façon. Et en tout cas, il a trouvé que cette initiative était particulièrement bienvenue parce que il n'y a pas contradiction entre des directives au niveau national et des initiatives de centres de recherche. Au contraire, elles peuvent se rencontrer, s'appuyer, se donner mutuellement appui, etc. Par ailleurs, des collègues de Madagascar qui étaient présents, eux aussi se sont montrés intéressés parce que Madagascar est une île dans laquelle il y a beaucoup de choses, à la fois en littérature, mais il y a aussi un passé historique, il y a beaucoup de choses, et malheureusement c'est un pays très pauvre, comme tu le sais, et c'est un pays dans lequel on manque cruellement de documentation. Donc Internet, ce serait pour eux évidemment une solution. Bon, par exemple, sur Gallica, on trouve le bulletin de Madagascar, hein, ce qui est qui est quand même quelque chose d'extraordinaire, parce que c'est des archives très considérables qui sont accessibles par Internet. Le problème, tu l'as évoqué d'ailleurs tout à l'heure, c'est le fait qu'ils n'ont pas non plus beaucoup de moyens d'accès à Internet, en tout cas pour l'instant. Mais il sera plus facile pour des institutions et pour l'aide internationale de mettre en place des ordinateurs que d'acheter des bibliothèques. Ça, c'est clair. Hein, le prix d'un ordinateur avec d'une connexion Internet qui permet d'avoir accès à des milliers d'ouvrages est tout de même beaucoup plus réduit que l'achat des milliers d'ouvrages en question. Alors, pour finir, je dirais que on a. Je vais finir tout de suite, en plus je passerai, ça sera. Mais j'ai presque fini. Alors, voulais. Ah non, là, mais du coup, je suis perdu là. Donc, les avantages du rattachement du site à un centre de recherche, qui est donc la solution que j'ai choisie, me paraissent intéressants pour plusieurs raisons. D'abord parce que un centre de recherche, c'est quand même une garantie, faut espérer, une garantie scientifique. Un centre de recherche, c'est l'équivalent d'un comité de lecture, et par conséquent, ceux qui publient directement sur le site sont agréés par le centre de recherche et peuvent faire reconnaître leur publication. Ensuite, le centre de recherche apporte de la documentation. Il y a des mémoires qui ont été soutenues, il y a des étudiants qui font partie des doctorants, des étudiants qui peuvent faire des petits travaux de mise en ligne d'informations sur des auteurs. Et enfin, le site géré par un centre de recherche est un site qui permet des communications beaucoup plus faciles entre les différents membres de recherche, et surtout au fait que, comme vous le savez, les centres de recherche sont souvent des associés, des chercheurs associés. Comme nous sommes à La Réunion, nous avons des chercheurs associés un peu partout dans le monde, à Maurice, à Madagascar, en France, aux États-Unis, etc. Et donc le fait de travailler sur un site commun, car on verra que ce site peut être nourri de n'importe où, est un avantage considérable. Donc voilà, les inconvénients, je vais les passer sous silence, comme ça on restera sur une note optimiste. Hein. Et je vais conclure en disant que j'ai eu la chance de rencontrer Julien Roux, qui était venu à La Réunion à l'occasion d'un... Tu t'en vas ? Qui était venu à La Réunion à l'occasion d'un colloque du CRLV, qui est le centre de recherche sur les littératures de voyage de la Sorbonne. On n'en a pas parlé, mais ils ont un site tout à fait exceptionnel. C'est lui, l'auteur de ce site. Et donc...
comment ? Les premières versions.
La première version, oui. Mais ce qui veut dire que... Enfin, donc, ce qui veut dire qu'il aurait été amélioré s'il avait continué à s'en occuper. Mais en tout cas, c'est à cette occasion donc on s'est rencontrés. Et évidemment, moi, j'avais mon site Littérature Réunionnaise, qui est un site que je faisais tout bêtement avec FrontPage, qui est un logiciel qu'on trouve dans le commerce. Et on s'est rencontrés, d'ailleurs par l'intermédiaire de Jacques Tuel, il ne faut surtout pas l'oublier, sinon, surtout si c'est enregistré, parce que il va se fâcher. Donc grâce à Jacques Tuel, j'ai pu rencontrer Julien Roux, et on a décidé de faire passer ce projet à la vitesse supérieure, je dirais, grâce au projet que maintenant va nous exposer mon camarade.
Merci Norbert. Bonjour tout le monde, c'est très émouvant d'être là. Je ne suis pas du tout chercheur, c'est ma première communication. J'espère que vous allez apprécier. Ça risque d'être un petit peu technique, j'espère pas trop vous saouler par rapport à ça. J'ai essayé d'en limiter les points plutôt techniques. Donc le logiciel dont Norbert parlait, nous l'avons un peu pompeusement appelé les lumières électroniques. Le but était de mettre en place une plateforme pour les centres de recherche pour pouvoir diffuser principalement au départ les articles de publication. et qui peut s'avérer aussi être un système de gestion de contenu pour gérer un site. Donc je vous présente un peu le sommaire. D'abord, je vais essayer de me présenter, vous dire pourquoi je suis arrivé dans ce milieu-là, les différentes fonctionnalités du logiciel, l'architecture fonctionnelle du logiciel, son architecture technique. Je pense que la démonstration, on n'aura pas le temps, mais peut-être ce soir ou à un moment de pause, je crois qu'après on pourra, et puis vous dire un petit peu où on en est dans ce projet. Moi je travaille pour une société qui s'appelle Les Lumières Électroniques. On s'est donné pour but il y a 3 ans de développer un système de gestion de contenu spécialisé pour les centres de recherche. Donc j'ai rencontré par intermédiaire de Jacques Tual Norbert Dodine, et ils travaillent ensemble dans le même centre de recherche à l'Université de la Réunion qui s'appelle le CRLHOI. Et nous avons commencé à élaborer le cahier des charges de cette solution et commencer le développement du logiciel.
Excuse-moi, CRLHOI, Centre de Recherche Littéraire et Historique de l'Océan Indien.
Donc moi je suis arrivé sur cette idée de travailler avec des centres de recherche par rapport à plusieurs domaines. Donc comme je vous ai dit, je viens de l'informatique de gestion, comptabilité dans les boîtes. Au bout d'un moment, au bout de 3-4 ans, la défense, ça m'a un petit peu j'ai envie de voir ailleurs. Et puis plusieurs phénomènes actuels m'ont poussé à venir là-dedans. Donc tout d'abord l'économie de la connaissance qui est en train de se mettre en place, enfin qui est mise en place depuis à peu près 50 ans. Les mutations de la recherche française qui sont en cours, l'Open Archive Initiative qui est en plein démarrage, la formation tout au long de la vie qui va se développer énormément au cours de ce siècle, et la gestion des connaissances qui est apparue à peu près il y a 10 ans. Donc l'économie de la connaissance, bon je ne vais pas vous faire un cours d'économie, je ne suis pas économiste, mais en gros il s'avère que les économistes se sont rendus compte que l'économie traditionnelle basée sur le travail et le capital est soit momentanément déréglée, soit en pleine mutation. Il s'avère qu'un économiste appelé Schumpeter a montré qu'on avait un écart au niveau du PIB, on avait une croissance supérieure à ce qu'on devait normalement avoir au niveau du capital et du travail. Il a appelé ça le produit multifactoriel. Cet écart de croissance, il a fallu l'expliquer. On l'a expliqué par plusieurs moyens, plusieurs théories, et on est arrivé donc du coup à ce nouvel modèle économique qui s'appelle l'économie de la connaissance. Donc elle est caractérisée souvent par 3 approches, mais elle est assez complexe, je vais juste la décrire de loin.
T'as le temps.
Elle est d'abord caractérisée par son approche centrée sur l'innovation. On s'est rendu compte pendant longtemps, par exemple si on prend la révolution industrielle, on avait inventé des ingénieurs, des scientifiques ont découvert la thermodynamique, ont petit à petit inventé la machine à vapeur, et pendant un siècle on a vécu sur cette seule innovation. On améliorait un petit peu les machines, on les rendait un petit peu plus performantes, mais on n'avait pas d'énormes progrès. Maintenant, on arrive à un train d'évolution technologique qui est assez infernal. C'est-à-dire que dès qu'une technologie arrive, elle est apportée dans un autre domaine. Il y a beaucoup de domaines qui sont transdisciplinaires. Et en plus, on ne cesse d'évoluer technologiquement depuis à peu près les années 20. Elle est aussi caractérisée par une différence de mode de production du savoir. Là où avant, il y avait quelques érudits, et puis quelques personnes après qui appliquaient, on a maintenant un plus grand nombre de gens qui sont peut-être moins érudits. On a peut-être, on ne va pas dire qu'on n'a plus du Einstein, mais avant on avait Einstein et Newton. Maintenant on a plutôt plusieurs personnes peut-être moins brillantes au niveau personnel, mais qui sont mis ensemble et qui travaillent en coopération. Et donc on travaille de plus en plus dans le modèle de ce qu'on appelle le réseau. On s'échange de plus en plus des données et les récents phénomènes de clusters qui sont appliqués actuellement en France avec les pôles de compétences sont une belle explication de ça. C'est qu'en mettant des gens qui sont dans le même domaine, dans le même lieu, on arrivera à avoir une émulation qui va se passer sur ce lieu. Et un troisième phénomène qui est l'externalité des connaissances. C'est-à-dire que de plus en plus, on arrive à codifier les connaissances, les écrire et de plus en plus à pouvoir les transmettre. Et notamment les nouvelles technologies de l'information et de la communication parmi ça. Elles coûtent beaucoup moins cher à codifier. On a les traitements de texte, c'est beaucoup plus facile qu'une machine à écrire, ça coûte beaucoup moins cher. On a des moyens de transmission qui sont bien plus importants et bien plus simples que la poste. Et on a des moyens de stockage avec les disques durs qui valent maintenant, désolé, presque plus rien au niveau des données. Donc on arrive à pouvoir diffuser beaucoup plus les connaissances. Si on prend un exemple, 2 pays en Europe n'étaient pas très développés dans les années 80, qui étaient la Grèce et l'Irlande. Ils ont reçu à peu près les mêmes subventions de la part de l'Union européenne. La Grèce a essentiellement misé sur de l'industrie lourde, sidérurgie, automobile, et l'Irlande a énormément misé sur des centres de recherche et sur de l'innovation. Il s'avère que quand on regarde aujourd'hui leur PIB, l'Irlande est en pleine explosion, Et la Grèce est dans un niveau normal, complètement prévisible par rapport au capital qui leur avait été donné, les gens qui travaillent dedans. Et donc on se rend compte vraiment que toute société qui vit plutôt sur la recherche et le développement et l'innovation arrive à avoir une plus grosse croissance que des pays basés sur le seul travail et le capital. Deuxième phénomène, donc, c'est la mutation de la recherche française qui est en cours à peu près, enfin, qui a été commencée, on peut dire, dans les années 80, c'est la rupture des grands projets de recherche, la fin des grands projets d'armement, d'aéronautique, de TGV, tous ces grands projets ont disparu, qui ont fait du coup une désertion dans les années 90 un peu, on a perdu en France une espèce de brillance au niveau international dans la recherche. Donc là, il s'avère que depuis quelque temps, on a l'air de vouloir un peu reprendre le flambeau. L'Union européenne s'est donnée pour but d'augmenter ses dépenses en R&D à 3% d'ici 2010, ce qui est assez considérable comme effort. Depuis, le gouvernement avait complètement réduit les dépenses dans la recherche, ce qui a fait un peu remuer la fourmilière. Il y avait ces fameux états généraux de la recherche qui s'étaient mis en place, qui avaient abouti à grand nombre d'analyses pertinentes sur l'état actuel de la recherche et sur des propositions de réforme à mettre en place. Donc on attend avec impatience cette fameuse loi d'orientation et de programmation de la recherche qui doit normalement arriver cette année. Il y a déjà des premiers signes qui ont été annoncés de l'Agence nationale de la recherche qui a pour but de reprendre le flambeau de cette construction de grands projets. Au mois de juillet de cette année, les pôles de compétitivité ont été dévoilés. Donc à peu près 167 pôles ont été définis en France, dont quelques-uns à vocation internationale. Donc en gros, la recherche française bouge. Après, un autre gros phénomène, c'est l'Open Archive Initiative qui est apparu en 2001. En gros, ça part un peu des avantages d'Internet pour la publication des chercheurs. Donc, les chercheurs n'attendent aucun revenu de leur publication. Ils ne touchent pas d'argent dans ce qu'ils publient, sauf s'ils publient un roman, mais ça, c'est un autre type de publication. En gros, ce qu'ils recherchent, c'est qu'ils soient au maximum publiés et qu'ils soient au maximum cités. C'est là-dessus qu'ils atteignent leur meilleure rentabilité de leur publication. Internet est pour ça le meilleur moyen, parce que cela permet une meilleure qualité, une meilleure quantité de l'information diffusée. Si vous prenez par exemple un article de colloque, un acte de colloque qui est imprimé en 500 exemplaires, qui est difficilement vendu en 150 exemplaires, qui finit dans quelques bibliothèques, c'est pas avec ça que les chercheurs vont vraiment avoir un rayonnement international. Si en tout cas vous diffusez sur Internet, vous allez avoir beaucoup plus de gens qui vont pouvoir vous lire. Le web aussi devient un moyen de diffuser de nouveaux types de données, des données multimédia, images, des logiciels, des données aussi qui ont été enregistrées pour faire la recherche. Et du coup, on a vu une apparition de revues électroniques qui sont dans différents formats. Il y en a, c'est du paper auteur, c'est-à-dire qu'il faut payer pour être publié, ça sera diffusé ad vitam aeternam. Il y en a, on donne le document, après c'est sur Internet, mais il faut payer pour les lire. Enfin, il y a différents modes de... Il y en a, c'est tout gratuit. Il y a différents modes de revues qui apparaissent, mais on sent bien que ça permet une meilleure valorisation des travaux de recherche, mais surtout une meilleure diffusion. Et enfin, avec Internet, les universités, les auteurs et les sociétés savantes vont pouvoir prendre du pouvoir qui leur avait été confisqué par les éditeurs. Faut savoir que les éditeurs ont énormément grossi d'après-guerre. C'était 7000 juste à l'après-guerre. Maintenant, on a 40 000 revues qui existent vraiment spécialisées. Et pour arriver, par exemple, à couvrir des domaines très précis, il faut arriver à acheter une vingtaine de revues tous les mois qui coûtent très très cher. Donc est apparue du coup cette initiative de Budapest en 2002 qui s'appelle la BOAI, Budapest Open Archive Initiative. C'était l'idée du libre accès, c'est-à-dire qu'en gros de se dire que tous les documents de publication, étant donné qu'ils font partie du domaine public, devraient être accessibles gratuitement sur Internet. Donc ça a été une espèce de première pierre qui a été posée. Et notamment, il y a eu l'invention d'un protocole qui s'appelle l'OAI-MPH, qui permet, grâce à des métadatas standardisés et un protocole bien défini, de pouvoir s'échanger les données scientifiques par des sites, mais c'est plus un site, je dirais, traditionnel, où on va dans le navigateur, c'est des systèmes qui vont directement faire des requêtes à des serveurs pour leur demander tous les documents qui ont été publiés, qui les récupèrent. Et ainsi, on peut du coup avoir plusieurs dépôts, boîtes de dépôt dans les universités. Et tout à coup, des moissonneurs arrivent, viennent vous récupérer tous les documents qui ont été publiés chaque jour. Et ces moissonneurs sont souvent thématiques, c'est-à-dire du coup, vous allez vous retrouver avec une banque de données qui aura récupéré dans la journée tout ce qui s'est publié dans la littérature, ou dans la physique nucléaire, ou dans la biologie, et ainsi de suite. Donc en gros, cette initiative encourageait les gens à commencer à faire de l'auto-archivage de leurs publications, et à mettre en place la création de revues en ligne. Un site et un centre de recherche anglais qui s'appelle le site Romeo a classé un peu ces systèmes de revues. Il faut savoir qu'on appelle, enfin ça vous le savez sans doute dans le jargon, un article avant qu'il soit validé par ses pairs une prépublication, préprint, et quand il a été contrôlé par ses pairs, on appelle ça un postprint. Donc ils ont repris un peu déjà cette habitude de travail. Et ils ont réussi à classer un peu, de faire un état des lieux. C'était en 2004 que j'ai récupéré ces données. Elles sont mises à jour assez fréquemment sur le site. Donc ils ont divisé les revues en 5 couleurs. Donc il a les revues blanches. Elles refusent formellement l'auto-archivage. C'est-à-dire si vous publiez dans ces revues-là, vous n'avez pas le droit de mettre le document sur Internet. Juridiquement, le contrat vous l'interdit. Elles sont encore majoritaires, elles représentent 45% des revues, soit 42% des éditeurs. Il y a les revues dites bleues qui permettent de publier sur Internet votre article avant qu'il soit publié chez eux. Mais une fois que ce sera publié chez eux, vous devez immédiatement le supprimer d'Internet. Il y a des revues dites vertes qui vous autorisent à le publier après que ce soit publié chez eux. Comme ça, ils auront la primeur de la publication. Il y a des revues dites bleues-vertes qui permettent à la fois de publier, que l'auteur publie sur Internet avant et après la publication dans cette revue, son article. Cependant, ces revues sont tout de même payantes, c'est-à-dire que pour y accéder, il faut pouvoir faut les payer. Et il y a des revues dites dorées qui permettent l'archivage avant et après publication et qui en plus sont gratuites. Donc le but, bien sûr, de ce mouvement était d'avoir petit à petit que des revues dites dorées. Donc, comme vous pouvez le voir, on en est encore loin. Elle représente 0,8% des journaux en 2004. Mais il faut savoir qu'il y a 4 ans, il n'y en avait pas du tout. Et surtout, les bleus-verts n'existaient pas, enfin, ou très peu. Et maintenant, on en est quand même à 16% des journaux qui sont dites bleus-vertes. Donc, on a vraiment un mouvement qui s'est lancé. Il y a après toute une série de déclarations qui ont été faites après cette déclaration de Budapest, qui sont notamment une des plus importantes, celle de Berlin. Mais en gros, là, ce ne sont plus les chercheurs qui se sont dit « on va essayer de s'affranchir des éditeurs », mais ce sont les trustees. C'est-à-dire qu'en gros, les centres de recherche sont de deux types. Soit ils sont publics, et d'après la loi française, tout travail d'un fonctionnaire dans le cadre de son service fait partie de la propriété de l'État. Donc tout travail de publication fait par des chercheurs français est la propriété de l'État, c'est un bien public. Deuxième cas, c'est fait par des laboratoires privés. Et dans ce cas-là, par exemple, on a des financements comme le Téléthon qui, dans leur contrat de financement à des laboratoires, exigent que tout résultat de recherche récupéré par rapport à cet argent donné par ces trustees soit rendu public. Et là, ça commençait à être une pression qui est venue non plus de la part des chercheurs eux-mêmes, mais de ceux qui les payent, en disant qu'il valait commencer à essayer de publier au maximum dans des revues dorées ou bleues-vertes, et de surtout ne plus publier dans des revues dites blanches, pour forcer ces revues dites blanches à devenir bleues-vertes ou dorées. Les bibliothèques universitaires et de recherche doivent prendre en charge l'aide à l'auto-archivage et la maintenance des archives, c'est-à-dire qu'en gros les bibliothèques universitaires dans ce cadre-là doivent mettre en place des systèmes d'auto-archivage dans leurs universités. Et les instances d'évaluation des chercheurs pour contrôler l'obtempération doivent exiger un CV en ligne standardisé avec les publications référencées en ligne, toutes liées à l'archive institutionnelle en libre accès et ou à l'archive du journal en libre accès. C'est-à-dire que bientôt, pour évaluer les chercheurs, il faudra que leur CV ait des pointeurs vers des ressources OAI de toutes leurs publications. Ce n'est pas encore demain, mais c'est en cours de se mettre en place. Autre phénomène qui m'a poussé à venir dans ce milieu de la recherche et de l'informatique pour la gestion de contenu, c'est la formation tout au long de la vie. Donc, comme je vous l'ai dit, on a besoin maintenant, si on veut être dans cette économie de la connaissance, d'avoir des gens qui soient capables d'innover. Donc, la formation initiale est très importante. Mais il faut savoir qu'avec l'évolution des technologies très rapide, dans 20 ans, si par exemple je me contentais moi en tant qu'informaticien de ne faire et de ne pratiquer que ce que j'ai appris il y a 5 ans, dans 20 ans je suis complètement cuit. Donc il faut à tout prix en permanence continuer de se former. Et là-dessus, les systèmes, les sites internet sont le meilleur moyen d'apprendre au cours de sa vie. Donc les systèmes e-learning vont avoir une explosion énorme dans le monde de l'entreprise et dans le monde universitaire. C'est-à-dire qu'en gros, on va avoir dans le monde universitaire un nouvel type de client qui va apparaître. C'est des gens de 40 ans qui ont peur de tout à coup se faire licencier parce qu'ils ne maîtrisent plus telle nouvelle technologie ou telle nouvelle méthode de travail et qui vont venir se former eux aussi. Et on a en plus un phénomène qui est en train de se passer, c'est que le Learning Object Metadata, qui est une métadonnée pour pouvoir décrire les objets pédagogiques, est en cours de normalisation par l'ISO, qui avait d'abord été refusé par la France et par l'Europe pour des raisons que j'ai toujours pas compris, mais bon. Autre point, c'est la gestion des connaissances. En 1990, la NASA a officiellement dit qu'elle ne savait plus envoyer des hommes sur Mars, sur la Lune, pardon. Les gens du projet Apollo sont soit à la retraite, soit morts. Les documentations restantes et les prototypes encore présents ne sont pas suffisants pour pouvoir refaire décoller une navette Apollo et l'envoyer sur la Lune. En gros, dans les sociétés, il y a souvent des départs à la retraite, des restructurations et des turnovers qui, du coup, peuvent affaiblir le savoir de la société. C'est-à-dire qu'une société qui savait faire quelque chose il y a 10 ans ne sera peut-être pas le faire aujourd'hui. Donc le but de la gestion des connaissances est de réutiliser tout ou partie des connaissances explicites et tacites pour réduire les coûts et les délais de l'innovation, c'est-à-dire de ne pas rechercher et de réinventer la roue en permanence, d'identifier très clairement les détenteurs du savoir à un moment, de pallier donc aux pertes de compétences et au départ à la retraite, les restructurations et le turnover, d'automatiser un nombre croissant de tâches de production et d'administration, de structurer les données pour éviter la surabondance, c'est souvent après un gros problème qui arrive dans ces systèmes-là, et d'évaluer les connaissances et la survaleur comptable de l'organisation qui les détient. Par exemple, si vous prenez des entreprises comme Google, si vous prenez juste le nombre d'employés qu'ils ont et le matériel qu'ils ont chez eux, ils ne valent pas grand-chose. C'est pas du tout ce que dit la bourse. En gros, ils ont une survaleur qui est faite parce qu'ils ont une connaissance que personne n'a, et surtout un leadership contestable. Bon, alors ça, c'est ce pourquoi je me suis tourné vers ce milieu d'essayer de faire une application pour les centres de recherche.
C'est l'autobiographie.
Excusez-moi.
J'ai déjà remarqué que sur Internet, il y avait de très nombreux projets qui avaient été lancés par les centres de recherche, dont de très très bons. Et souvent, je revoyais les mêmes choses qui arrivaient, donc des archives bibliographiques, comme je l'ai vu hier soir avec une archive pour le Brésil, qui était une très très bonne base bibliographique qui avait été mise en place. Des moteurs de recherche indexation, des fois qui ont été développés en interne, ou des fois qui reprennent des moteurs existants. Les systèmes de gestion de contenu, il y en a un paquet qui existe. Et les systèmes de gestion de transformation des métadatas, qui sont souvent des transformations XSLT. Et j'ai vu souvent, quand j'ai un peu regardé le milieu, que tout le monde refaisait la même chose dans son coin. C'est systématique, tout le monde refait son moteur de recherche, tout le monde refait son système bibliographique. Alors que bon, ça fait depuis bien longtemps que les bibliothèques en ont, et il y a des ressources qui existent, qui sont dites ouvertes, open source, qui sont complètement accessibles, et ça sert à rien de en permanence réinventer la roue. Donc je me suis dit, les objectifs, c'était juste de mettre en place un outil simple, multifonction, adaptable et interopérable. Oula, ça veut dire beaucoup de choses, ça. Donc déjà, simple, ça serait pour qu'un informaticien, un non-informaticien puisse l'utiliser, c'est-à-dire surtout pas parler de HTML, surtout avoir rien à brancher, tout comme ça. Multifonction, c'est-à-dire qu'en gros, de pouvoir faire beaucoup de choses et de pouvoir peut-être s'en servir que juste un petit bout. Adaptable, du coup, parce qu'il peut s'adapter un peu à toutes les fonctions, et surtout, il peut être paramétrable, on peut configurer l'interface, des feuilles de scie, des choses comme ça. Et interopérable, qui est un élément maintenant essentiel, c'est-à-dire qu'en gros, ces données soient pérennes dans 10 ans. C'est-à-dire que tout ce qui est archivé dans des bases de données, des fois qui sont propriétaires, n'ont aucune valeur. Dans 10 ans, on ne saura pas ce que ça donnera. Alors qu'il existe des formats d'échange de données bibliographiques, tels que le MODS, le AD, qui existent depuis longtemps, et qui ne sont très rarement utilisés pour ces systèmes. Donc se baser sur des projets open source existants et diffuser le résultat sous une licence open source aussi. C'est-à-dire que, bon, jouer le jeu, l'attrait de rendre ce logiciel ouvert. Donc les grandes fonctionnalités, c'est bien sûr la saisie des données. Les données qui sont mises appartiennent au centre de recherche. Elles ne sont pas forcément toutes publiées. C'est-à-dire qu'en gros, on peut se donner des réserves par rapport à ces bibliographies primaires, des articles qui ne sont pas encore validés pour être publiés sur Internet, mais on demande recorrection. Donc en gros, qui sont accessibles sur l'extranet du centre, mais pas sur le site Internet. Donc la publication sur le site internet du centre avec un processus de validation, la publication sur l'OAI Data Provider, qui était tout à l'heure le protocole que je vous parlais. Donc une fois que c'est mis sur l'OAI, en tout cas, on ne peut plus jamais retirer le document. Ça, c'est impossible. Une fois que le document est mis sur un OAI Provider, il est de suite avalé par des moissonneurs. Et là, vous ne pouvez plus jamais gérer et de demander « Ah mais non, mais je voudrais bien corriger ça » ou l'enlever, c'est plus possible. La gestion des droits d'auteur. Donc il y a des fois des problèmes, c'est-à-dire que vous avez des livres qui sont actuellement encore avec un droit patrimonial qui est dessus, donc vous n'avez pas le droit de les diffuser. En revanche, rien ne vous empêche de pouvoir faire des recherches dedans et de permettre sur Internet de faire des recherches et de vous dire c'est dans tel livre. Et la loi aussi autorise à faire une citation courte. On peut prendre 250 mots de citation où il y aura les mots qui ont été recherchés. Et en gros, il est impossible de faire une recherche qui pourra vous donner l'ensemble du livre. C'est d'ailleurs ce qu'est en train de faire Google avec Print Google. Il y a aussi des gestions de droits d'auteur qui sont des fois de ce qu'on appelle du copyleft. C'est-à-dire qu'en gros, de se dire, bon ben mon article, ma publication, je la donne ad vitam aeternam, je ne garde que les droits moraux dessus, mais je refuse tout droit patrimonial. Donc il y a différentes licences qui sont la licence Creative Commons, qu'il a pu utiliser, et une licence française qui avait été inventée sur le projet Hyperniche, qui s'appelle la licence Hyperniche, qui avait été faite par un français qui s'appelle Chevaleret ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus de son nom, et qui était une très bonne licence et qui était compatible avec le droit français. Après, donc, vu qu'on est avec l'OAI, il faut aussi pouvoir faire un moissonnage, c'est-à-dire aussi pouvoir aller récupérer les données des autres, ce qui paraît un peu essentiel, et permettre des imports-exports interopérables, c'est-à-dire d'échanger les données en format EAD, du HTML propre, ou des formats MODS, enfin quelque chose qui soit rebranchable dans un autre système, sans avoir un format particulier de données. Donc les types de données, en gros on a 5 grands types de données. On a d'abord les personnes. Donc les personnes peuvent être des chercheurs, des doctorants, des personnages historiques, des auteurs étudiés, des personnages qui sont dans des romans, j'appelle ça des personnes. Les organisations, donc ça ce sont des centres de recherche, des bibliothèques, des universités, des éditeurs, des associations savantes, enfin tout genre d'organisations que peut rencontrer des associations, tout genre d'organisations que peut rencontrer un centre de recherche. Donc les documents. Donc quand j'appelle document, pour moi ce que j'appelle document c'est la metadata. C'est vraiment un metadata, titre, auteur, résumé, mots-clés, classification, tout ça. Donc là, ça peut être des articles, des communications, des ouvrages primaires ou secondaires, des thèses, toutes sortes, des cours. Les médias. Donc les médias peuvent être des images, des sons, des vidéos, des fichiers Word, des PDF, du HTML, ou des documents LaTeX qui sont souvent utilisés pour les scientifiques pour faire de la publication. Et en fait, les classifications, donc par exemple la classification de Way, la classification du CNRU, du CNRS, des sujets rameaux de la Bibliothèque nationale, le TGN qui est un système de classification des lieux géographiques dans le monde, la classification de la librairie du Congrès, enfin votre propre classification, par exemple, peut-être une classification sur les littératures réunionnaises à toi. Donc les différentes formes de données, ça c'était les types, les formes, ça prend soit la forme de metadata. Donc les plus connus sont bien sûr le Dublin Core, qui sont à la base du protocole OAI, enfin qui doivent être toujours présentes, le AD, qui est un nouveau type de document de type XML qui permet de faire de l'archivage bibliographique, le MARC qui était son ancêtre on peut dire, et le MODS aussi, l'UNIMARC, l'INTERMARC, donc ça ce sont un peu des avatars de la norme MARC, je crois que la Bibliothèque Nationale travaille en INTERMARC,
ou en UNIMARC,
ouais. Le LOM, donc, qui est pour les objets pédagogiques, les VCARD, qui sont par exemple des métadatas qui décrivent une personne avec son adresse et tout ça. Donc les relations entre les données, alors là, il y a différentes classifications aussi qui existent pour ces relations. La librairie du Congrès est là-dedans la plus fournie dans ces types de relations et de classifications. Donc il y a X est auteur de Y, Z fait partie de X, B est une version de A, T est l'éditeur de U. ainsi de suite. Et en fin de compte, les fichiers, donc fichiers LaTeX, Word, PDF, HTML, TEI, DocBook, que sais-je, qui vont être vraiment le contenu de l'information. Donc les fonctionnalités incontournables qui sont implémentées, c'est la gestion et la transformation des différents types de metadata. Donne-moi du mode, je t'en donnerai du EAD ou des trucs comme ça. Gestion et transformation des différents types de données. Alors, par exemple, la transformation de Word vers HTML, avec bien sûr toutes ces fantaisies que ça peut avoir derrière. Bon, il y a différents moyens d'y arriver. Un qui a été sélectionné, ça donne pas quelque chose de parfait à chaque fois, il faut y repasser derrière. Mais déjà, ça aide un peu à avoir quelque chose. Et enfin, les moteurs d'indexation et de recherche, ce qui est essentiel quand on a une grande bibliothèque, c'est surtout de ne pas faire des requêtes SQL derrière, sinon vous allez vite vous péter la base. Dès que vous allez avoir 10 000 documents dedans, ça peut être possible. Si vous faites une recherche SQL, en gros, ça lit tous les documents au fur à chaque fois que vous demandez la requête et puis ça va si c'est dedans. Les moteurs d'indexation se jouent avec un index qu'on appelle inversé, c'est-à-dire qu'en gros ils lisent un document, ils voient là où il y a écrit chat, petit, grand, moyen, hein, et puis ils mettent dans un index, ils mettent petit, tel document. Et puis après, dès que vous avez un autre truc, un autre document où il y a écrit petit, il met aussi petit, il y a tel autre document. Et en gros, quand vous allez chercher petit, il va dire il y a tel document. Il le sait déjà. Et quand vous allez faire petit chat, il va prendre là où il y a petit, là où il y a chat, il va prendre les deux, puis hop, il va vous les donner. Avec des histoires aussi de ranking qui sont par rapport à la façon dont apparaît le mot, dans quel champ il est, des choses comme ça. Et aussi l'adoption du protocole OAI-PMH qui me paraît essentiel maintenant pour communiquer la plupart des données. Et on sait qu'on peut utiliser d'autres formats de metadata que le Dublin Core qui doit toujours être obligatoire, mais on peut du coup communiquer en EAD, communiquer en envoyer ce qu'on veut en XML. Donc l'architecture en gros, Donc en gros, il y a un endroit où on peut mettre les données, il y a un endroit où on peut en moissonner, il y a un endroit où ça les diffuse par un site web, il y a un endroit où ça les diffuse par un LMS, c'est-à-dire un système de cours, et un OAI Data Provider qui est valable du coup par un harvester, un moissonneur, qui viendra les chercher. En gros, chaque centre dispose de son petit repository, c'est-à-dire qu'il y a en gros un seul conteneur, et dedans, vous avez par exemple une université, elle a un conteneur, elle met sur un serveur, et puis dedans, elle peut créer autant de comptes que de centres de recherche ou de sites plus spécialisés, du genre le site sur la littérature de la Réunion.
Voilà. On a acheté déjà.
Donc en gros, après, il y a ce modèle qui est arrivé, c'est-à-dire que vous avez trois petits sites dans les universités, et vous avez la grosse base qui va arriver, qui va venir tous les jours moissonner tout ce qui a été publié en OAI, et qui pourra être des bases thématiques. Il y en a une qui va aller avaler tout ce qui concerne la littérature, l'archéologie, ainsi de suite. Donc l'architecture technique, voilà le modèle de données. Donc en gros, ce qui est vert, c'est les documents. Ce qui est... il n'est pas très très gros, il a été simplifié. Ce qui est orange, c'est les classifications. Le vert, c'est les documents. Donc le document avec tous ses annexes. Par exemple, vous avez tout ce qui concerne le format, tout ce qui concerne les trucs éducatifs, les contraintes techniques. Par exemple, il faut un navigateur, ces choses. L'audience et tout ça. Ce qui est orange, ce sont les classifications et leur schéma de classification. Donc le schéma, c'est par exemple le schéma de la librairie du Congrès. Et puis classification 127-322Z, qui veut dire chat. Voilà. Vous avez les organisations, qui est les personnes. Tout ça est relié au marron qui sont les records, en gros. Et le marron va dans le gris du haut qui est le repository, qui est relié à des index, qui est relié à des storage. Et tout ça part vers le bas en bas, qui sont les assets, qui sont les médias, et qui finissent dans un byte stream sur un storage, qui est en gros mis dans un disque. Et le chat, il finit dans l'index. Donc en gros, les éléments, donc il y a une base de données ici. Les bases de données, c'est quand même bien de ne pas les supprimer, parce que ça sait faire une chose de très très bien, les bases de données, c'est l'aspect relationnel. Qui est auteur de quoi, on l'a de suite, c'est les bases de données, et ça sait gérer le relationnel. Le disque dur, on met tous les documents, et les metadata aussi, qui sont des fois importés pour ne pas les dénaturer à la base. Et puis l'index, qui est l'index qui aurait été fait par le moteur de recherche Lucene. Donc le système de data store management, il est en interne. Le système de mappage objet entre la base et les objets Java, c'est un système qui s'appelle Hibernate. Le gros centre, c'est en gros la Java Bean Factory, c'est là où tout le monde joue ensemble, tous les objets sont instanciés et jouent ensemble. Et ils peuvent être diffusés par deux choses, soit le contrôleur MVC, modèle vue contrôleur, ou soit le remoting, qui peut être pour tout ce qui est l'OAI. Démonstration du prototype, on verra plus tard. Donc, où en sommes-nous? Donc, on a commencé en 2003. En avril 2004, on a mis en place un prototype qui a permis de commencer à saisir les données. Et là, en octobre 2005, on va mettre en production la première version. Et début 2006, je pense mettre en place, donner le logiciel en open source. Donc, pour l'instant, ce qui a été saisi dedans, donc dans la littérature réunionnaise, il y a eu 929 documents, 429 personnes, 253 organisations, 81 classifications et 61 médias. Voilà.
Bon, d'accord. Pour l'organisation, si on s'arrête maintenant, est-ce que la visite peut avoir lieu maintenant? Ou alors est-ce qu'on a un petit moment jusqu'à ce que la visite puisse avoir lieu? Bon. On peut commencer, voilà, interagir et puis ça se marque.
Est-ce qu'on pourrait avoir accès au prototype?
Oui, le prototype est déjà existant, mais alors le prototype il n'implémente pas pour l'instant tout ce qui est décrit dedans. Moi j'ai le code source là, de la future version sur cette machine là, qui est pour l'instant complètement encore buggé, qui a du mal à compiler.
Vous avez vu hier, c'est aussi de WordPress, on travaille là-dessus, on essaie de faire un prototype aussi pour la future bibliothèque numérique de notre université, et aussi pour rassembler des bibliothèques numériques au Brésil. Alors, pour nous, WordPress, c'était vraiment vital.
Pour continuer la réponse, donc on peut accéder hein, au site. On peut donner des adresses d'ailleurs.
Oui, c'est toujours les adresses de l'Université de la Réunion. Le problème, c'est qu'on a, pour l'instant, c'est un prototype. Voilà. Il était avec une technologie qui s'appelait WebObject, qui nous permettait de le développer assez rapidement. C'est très facile pour faire du prototypage avec. Ce qu'il y a, c'est que les adresses qui sont données dedans ne sont pas les adresses finales. C'est en gros, les adresses sont dynamiques, c'est-à-dire c'est 3, 4, 5, Z22 qui vous avez le document. C'est jamais les mêmes.
Ça marche
sur Internet, vous pouvez y aller. Sauf que ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas voulu donner l'adresse du site et on refuse au moteur de recherche de venir indexer parce qu'on n'a pas envie qu'ils indexent quelque chose qui n'est pas bon 2 heures après ou qui ne sera pas bon 6 mois après.
Mais
l'adresse, on peut vous la donner.
Oui. Le
code source, pas encore. Il n'est pas encore publié. Si vous voulez, on peut voir après, mais pour l'instant, non, je préfère attendre de finir de le développer, que ça marche avant de le mettre en ligne.
C'est-à-dire que si tu passes par exemple sur un document, l'idée c'est que pour chaque document, il y aura un résumé court et un résumé long. Par exemple, tu n'auras pas accès, tu ne verras pas le résumé long avec le prototype, on ne voit que le résumé court, des petites choses comme ça. Donc tu n'auras pas l'ensemble des données accessibles. Alors les adresses, on les donne alors?
Oui.
Alors c'est CRLHOI, CRLHOI,
CRLHOI,
Centre de recherche littéraire et historique de l'océan Indien, CRLHOI, point unive réunion point, il est en train de l'écrire
hein,
unive-réunion.fr.
Donc voilà. Là c'est celui du CRLHOI qui est le centre de recherche, donc qui est il traite de la littérature et de sur l'océan Indien,
pas seulement hein. Pas seulement.
C'est plus large.
Il y a par exemple Jacques. Oui, il parle des Quakers, donc c'est pas.
Donc ça paye. On a peut-être le temps pour encore une question de Daniel.
Non, mais c'était pas une question, c'est pour dire que nous aussi, Madame Bovary et moi,
non, par exemple.
C'est par ce genre de choses, et on aura bien besoin de vos lumières. Si vous pouviez nous offrir un quart d'heure de votre temps dans un
domaine. Il n'y a pas de problème.
Non, mais ce soir, on peut faire un atelier, non? Monsieur le directeur.
Ce soir, on peut faire un atelier de présentation, effectivement.
Voilà. Et alors, l'autre adresse, c'est littérature.
Alors, l'autre, oui, c'est littérature
réunionnaise, unive-réunion.fr. Voilà.
Est-ce que le logiciel sera en open source?
Oui.
D'accord.
Donc, moi, maintenant, je suis une société. J'ai essayé de vivre avec ça. Donc, vivre en mettant un logiciel gratuit, ça va être assez dur. Mais c'est quand même ce que j'ai envie de faire parce que je pense que le meilleur moyen pour pouvoir diffuser le savoir ouvert, c'est d'avoir un logiciel ouvert. Et le phénomène pour essayer de gagner de l'argent quand même avec et d'arriver à subsister, c'est de vendre des sortes d'abonnements à l'année, en gros des aides. Donc on vous aide à installer le logiciel, on vous aide à paramétrer, on vous forme pour l'utiliser. Et dès qu'il y a quelqu'un qui a un problème ou qui est nouveau dans le centre, il peut appeler et avoir une aide dessus. Et en plus, avec cet argent-là, on continue de développer le logiciel et de le faire avancer. Et le but, c'est de faire payer très peu, beaucoup de centres, pour pouvoir après avoir un montant à peu près correct pour arriver à vivre derrière. Quoi.
Donc,
Donc ça serait l'idée. Maintenant, est-ce que ça va marcher? Et dans le business plan que j'ai, il me faut à peu près 100 centres dans la première année. Donc 100 centres, en travaillant 200 jours, ça veut dire qu'un tous les deux jours, j'arrive... Ça va être un peu dur, mais on va voir quoi. Donc voilà, lancement, on le lance à La Réunion là en octobre. On met après quelques coups de tournevis dedans encore et je le publie en décembre en gros sur Salesforce ou que sais-je. Je vais juste vous faire voir si c'est...
Non.
Ce soir.
On verra après ça. Alors, on va s'interrompre en pause maintenant. Serge, tu retiens ta question. À l'issue de l'exposé d'Isabelle Escolin-Tantanfou, on pourra aussi poser des questions qui s'adressent à...